Bon réveil à l'écoute de France Culture, voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pas d'issue au shutdown aux États-Unis. La réunion d'hier soir à la Maison Blanche avec les représentants démocrates et républicains du Congrès n'a pas permis de sortir les administrations de leur paralysie partielle. Compte rendu de Loïc Loury, une situation qui traduit aussi la fragilité du système bipartisan américain. Analyse à suivre avec le spécialiste des États-Unis, Jérémy Guez.
Et puis en mer du Nord, des containers chargés de produits toxiques sont à la dérive au large des Pays-Bas. Trois d'entre eux contiennent une poudre destinée à fabriquer des plastiques. N'ont pas été localisés, l'ONG Robin des Bois demande une amélioration du système de balisage des containers. Nous entendrons Jackie Bonnemain dans un instant.
En France, le président des Patriotes, Florian Philippot, s'émeut de l'interpellation d'Éric Drouet. Le gilet jaune est en garde à vue depuis hier soir en cause. Une manifestation sur les Champs-Élysées qui n'a pas été déclarée. Puis après ce journal, à 7h12, la question du jour, Guillaume.
Qu'est-ce qui va changer pour les demandeurs d'emploi? Eh bien, nous poserons la question au directeur de l'OFCE, Éric Eyal.
Aux États-Unis, c'est aujourd'hui la rentrée parlementaire. Le 116e congrès de l'histoire américaine va se mettre en place. Un congrès où les démocrates contrôlent désormais la Chambre des représentants. La reprise politique se fait également dans un contexte plus que tendu. Le pays entre dans son 13e jour de shutdown, faute d'accord sur le budget, notamment le financement du mur contre l'immigration à la frontière mexicaine. Eh bien, les administrations restent donc partiellement fermées aujourd'hui, même s'il y avait un petit espoir hier soir. Le président Trump recevait les représentants républicains et démocrates à la Maison Blanche, mais aucune avancée à l'issue de cette réunion, Loïc Loury.
Le shutdown se poursuivra aussi longtemps que nécessaire, voilà ce qu'affirme Donald Trump, qui n'avait visiblement pas envie de négocier. Le président veut son mur à la frontière mexicaine, il l'a redit avant même de recevoir les leaders des deux parties.
Ils disent que le mur est immoral, mais du coup, il faudrait faire quelque chose à propos du Vatican, parce que le Vatican a le plus grand mur au monde. Le mur est immoral ? Regardez tous les pays qui ont un mur. Et ils marchent à 100%. Ça ne changera jamais. Un mur est un mur.
Pour cela, Donald Trump réclame 5 milliards de dollars. Les démocrates proposent 3 fois moins pour la sécurité des frontières. Ils accusent le président de prendre les Américains en otage pour ce mur inutile. Chuck Schumer, chef de l'opposition démocrate au Sénat.
On lui a demandé de nous donner une bonne raison. Je lui ai demandé personnellement, j'ai dit, Monsieur le Président, donnez-moi une bonne raison de maintenir ce shutdown. Il ne m'en a pas donné une.
Mais côté démocrate, pas plus de concessions à attendre. Nancy Pelosi, leader à la Chambre des représentants, ne veut pas financer le moindre centimètre de mur.
Non. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Rien pour le mur.
Des démocrates qui prennent aujourd'hui la main à la Chambre basse, ils doivent y présenter un budget rejeté d'avance par l'exécutif. Leur démarche, selon la Maison-Blanche, ne garantit pas la sécurité aux frontières. Elle placerait également les besoins d'autres pays au-dessus de ceux des citoyens américains. Donald Trump lui invite tout le monde à revenir négocier ce vendredi.
Correspondance à New York, signée Loïc Loury. La paralysie de l'administration américaine pourrait avoir des conséquences économiques. Les marchés risquent en effet d'être privés d'informations statistiques pour s'orienter. Ce n'est pas rien dans le contexte de la volatilité boursière de ce début d'année. Mais au-delà, selon Jérémy Guez, professeur à HEC et spécialiste de la vie politique américaine, ce type de bras de fer budgétaire qui se répète ces dernières années traduit la fragilité du système bipartisan états-unien.
Le shutdown en lui-même, c'est quelque chose qui a eu lieu à un certain nombre de reprises sous Ronald Reagan, sous Bill Clinton, sous Barack Obama et désormais avec Donald Trump. Je pense que ce qui est marquant, c'est que c'est le fait que ça soit des crises répétées. C'est le troisième qui a débuté en tout cas en 2018. Il y en avait déjà eu un en janvier, un autre en février, un troisième qui a débuté en décembre et on le sait qui n'est pas terminé. Je pense que cette fréquence accrue montre que au-delà du shutdown particulier actuel, il y a quelque chose de symptomatique ici. C'est la crise politique structurelle profonde que traversent les États-Unis avec un système bipartisan qui a beaucoup, beaucoup de mal à fonctionner. Il faut se rappeler que les États-Unis, les pères fondateurs, avaient conçu un système politique avec cette volonté pour faire avancer la machine. Il faudrait beaucoup de compromis entre démocrates et républicains. Cela a marché pendant beaucoup de temps, mais désormais la marge de compromis entre démocrates et républicains devient de plus en plus faible. On le savait déjà sous Obama. Désormais, on peut se demander si elle existe encore. Et donc, incapacité à faire des compromis sur le budget mène à ces crises répétées au Congrès, entre le Congrès et la branche exécutive, la Maison-Blanche.
Jérémy Guez était l'invité de Stanislas Vazak dans le journal de 22h. Le retrait des forces militaires américaines déployées en Syrie sera progressif. Donald Trump s'est aussi exprimé hier soir sur le départ des 2000 soldats déployés dans le pays, un départ ordonné mi-décembre contre l'avis de ses principaux conseillers. Le président américain qui s'est aussi engagé à protéger les Kurdes dans le nord-est du pays, Kurdes qui avaient fait appel à l'armée du régime de Damas pour les protéger d'une offensive turque après la décision américaine. La semaine dernière, l'armée du régime syrien s'était donc déployée au nord et à l'ouest de la ville de Manbij, le verrou de cette région contrôlée donc par les Kurdes. Et hier, des combattants kurdes ont quitté les lieux, selon Damas, Aurélien Colli.
Près de 400 combattants kurdes ont quitté Manbij, déclaration du ministère syrien de la Défense qui publie aussi une vidéo montrant un convoi avec des hommes armés brandissant le drapeau des unités de protection du peuple, la force kurde qui contrôle le nord-est de la Syrie. Mais pas de confirmation de ces porte-paroles, un démenti même de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui indique que ces hommes sont des milices alliées aux Kurdes, venues en renfort après l'annonce du retrait américain pour contrer une éventuelle offensive de la Turquie ou des forces qu'elle soutient. Qu'ils soient kurdes ou alliés aux Kurdes, l'annonce très médiatisée de ce retrait a surtout des allures de signal envoyé à la Turquie par le régime syrien. Certes, celui-ci a répondu à l'appel des Kurdes la semaine dernière. Certes, il a déployé ce week-end son armée le long de la ligne de démarcation avec les forces pro-turques, mais il veut éviter l'escalade. En coulisses, le parrain russe de Damas semble aussi avoir donné des gages à la Turquie samedi lors d'une rencontre à Moscou. Le régime syrien reprendrait le contrôle de Manbij et sa région après le retrait américain, mais il ferait aussi reculer les Kurdes de l'autre côté de l'Euphrate.
Aurélien Colli, notre correspondant permanent à Beyrouth. En République démocratique du Congo, Internet toujours coupé ce matin, alors que la commission électorale annonce un probable report des premiers résultats de l'élection présidentielle. L'Union africaine met par ailleurs la pression sur le pays. « Faites en sorte que nous ne soyons pas déçus », déclare le chef des observateurs électoraux, l'ancien président malien Diakouda Traoré. 270 conteneurs actuellement à la dérive en mer du Nord. Ils faisaient partie de la cargaison d'un transporteur maritime géant, un navire de près de 400 mètres de long pour 60 mètres de large. Il venait d'Asie et se rendait en Allemagne quand il s'est retrouvé pris dans de fortes rafales de vent dans la nuit de mardi à mercredi. La cargaison à la dérive est surveillée par les gardes-côtes néerlandais qui s'inquiètent en particulier de trois conteneurs non localisés qui contiennent des produits dangereux, des barils de peroxyde organique extrêmement inflammables et source d'irritation. Selon Jackie Bonnemain de l'ONG Robin des Bois, ces accidents sont malheureusement assez fréquents. Le bateau incriminé n'en est d'ailleurs pas à son premier coup d'essai. Jackie Bonnemain est au micro de Véronique Rebérotte.
On estime, bien qu'il y ait une grande opacité dans ce domaine, que 100 000 conteneurs sont perdus par an sur l'océan mondial. Donc il y a des risques écologiques, il y a aussi des risques pour la sécurité maritime, pour les pêcheurs, pour les navires de plaisance en cas de collision. Et il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une catastrophe qui risque d'avoir des répercussions pendant de longs mois parce qu'au gré des courants et au gré du vent, les marchandises dispersées ou les conteneurs flottants peuvent atterrir sur le rivage de la mer du Nord, peuvent éventuellement arriver sur les rivages de l'Angleterre ou du nord de la France. Ça dépend des courants, des vents, des dérives. On attend depuis maintenant une bonne vingtaine d'années des dispositifs de balises collées sur les conteneurs qui permettraient de les localiser en cas de perte en mer. Mais ce dispositif, qui est relativement simple à mettre en œuvre, mais qui coûte un peu cher, n'est toujours pas de rigueur.
7h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal d'Anne Fauquemberg. En France, Éric Drouet, l'un des chefs de file des Gilets jaunes, a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue à Paris.
Oui, selon la préfecture de police de Paris, le chauffeur routier faisait partie d'un groupe de plusieurs dizaines de Gilets jaunes qui voulaient manifester sur les Champs-Élysées. Il a été interpellé à proximité de la Grande Avenue parisienne, placé en garde à vue parce qu'il n'avait pas déclaré la manifestation. Éric Drouet est sous contrôle judiciaire depuis le 23 décembre dernier. dernier. Il est convoqué par la justice en juin prochain pour port d'armes prohibées de catégorie D, à savoir, selon la préfecture de police, une sorte de matraque retrouvée sur lui lors de l'acte 6 des manifestations. Éric Drouet, personnage clivant, critiqué hier par Benoît Hamon, adulé par le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi par certaines personnalités d'extrême droite comme Florian Philippot. Le fondateur des Patriotes a d'ailleurs pris sa défense hier soir.
Je suis très choqué par cette nouvelle arrestation. J'en ai vu d'ailleurs les images, les trop violentes. On a le sentiment que en France aujourd'hui, sous le régime Macron, il est préférable de se balader illégalement avec deux passeports diplomatiques plutôt que de manifester pour ses droits sociaux, ses droits démocratiques. Et la répression systématique, brutale, les ordres brutaux donnés aux forces de l'ordre, d'ailleurs que certains policiers commencent à dénoncer eux-mêmes, ça commence à bien faire, voilà. Ça commence à bien faire parce qu'il y a un petit parfum qui n'est plus vraiment démocratique, qui n'est plus vraiment républicain, qui commence à se répandre. Et j'ai le sentiment que le régime Macron devient de plus en plus autoritaire.
Des propos recueillis par Théo Hetch. L'Opéra de Paris célèbre cette année ses 350 ans avec ce slogan « Moderne depuis 1669 ». C'est en effet au XVIIe siècle qu'a été fondée cette institution sous le nom de l'Académie Royale de Musique. Mais moderne jusqu'où ? C'est ce que se demandent les nombreux visiteurs qui depuis lundi soir découvrent sur le grand escalier de l'Opéra Garnier deux énormes pneus de tracteurs, des pneus recouverts de feuilles d'or. L'installation, intitulée Les Saturnales, restera en place toute l'année. Elle a été commandée par l'Opéra et c'est le plasticien Claude Lévesque qui l'a réalisée. Cécile de Kervas-Doué, les visiteurs sont pour l'instant donc dubitatifs.
C'est trop moche. Hein.
Ça va pas avec le reste.
On n'a pas pris de photos à cause des pneus.
Ça nous a choqués.
Sur le grand escalier de l'Opéra Garnier, ce sont surtout les touristes étrangers qui mitraillent les deux grands pneus dorés. Les autres demandent des explications à l'agent de surveillance de l'Opéra, qui n'est là, dit-il, que pour éviter que les pneus soient abîmés. Un comble, s'énerve l'historien de l'art Didier Rickner, fondateur du magazine en ligne La Tribune de l'Art, qui dénonce une énième opération de communication.
Des scandales comme ça, il y en a plein. C'est devenu une espèce de mode. On met de l'art contemporain qui va choquer le bourgeois au milieu de l'art ancien. Je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de créer du buzz. Et ça marche très bien parce qu'on fait cela pour qu'il y ait des gens qui réagissent et qu'on puisse dire « regardez les réacs ». Et moi, mon constat, c'est qu'on ne peut pas critiquer l'art contemporain aujourd'hui. Si moi, je dis « j'ai détesté Lucie Luc Besson », je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment un des films que j'ai le plus détesté ces dernières années. Eh bien, si je dis que c'est une grosse daube, on va pas dire « quel réac ». On va dire « mais il a tout à fait raison, mais quel homme de goût ». Tandis que si je dis que ça, c'est ces sculptures de Claude Lévesque, c'est une grosse daube, quel réac, il aime pas l'art contemporain. Et puis en plus, il vient s'en plaindre parce que c'est au milieu de l'art du 19e siècle. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu de ça. Ça va partir dans un an. Mais ça a coûté combien ?
Contacté, l'Opéra de Paris dit réserver sa réponse et ses explications pour la semaine prochaine, jour du vernissage officiel de ses Saturnales.
Et on relaiera évidemment, Cécile, les explications de l'Opéra de Paris la semaine prochaine dans nos éditions. La météo de ce jeudi 3 janvier, temps clair ce matin au sud de la Loire. C'est nuageux en Bourgogne-Franche-Comté, quelques pluies dans les Hauts-de-France et en Normandie. Les températures en ce moment, la minimale, moins 4 à Aurillac, il fait 0 à Strasbourg, 1 à Bordeaux, 2 à Lyon, 4 à Lille et jusqu'à 7 degrés à Ajaccio. Des températures qui grimperont jusqu'à 13 cet après-midi.